L'art de psychanalyste, c'est un peu, c'est ça le titre du séminaire. Ce qui apparaît, c'est, me semble-t-il, dans le travail qu'on fait ensemble, c'est l'importance du pas encore classé. Pas encore classé. Et je ne peux que revenir à Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne quand il dit à propos de la modernité, car il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est absolument laid dans l'habit d'une époque que de s'appliquer à en extraire la beauté mystérieuse qui peut être contenue, si minime ou si légère qu'elle soit. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Alors, j'ai déjà cité Baudelaire, vous savez que c'est un tournant, et aujourd'hui, parce que en parlant de ce soudain moment où quelque chose tombe, c'est vraiment le mot qu'on a vu, hein. La question c'est pas le ça tourne, c'est le ça tombe, on va dire juste ce qui est la définition du mode et du moderne, hein, modus, modernus, qui du coup nous arrache à la question de la chronologie. Puisque la question de la chronologie, ce serait qu'il y a la modernité, après la modernité, avant la modernité, c'est qu'on reste accroché à une période, on fait de l'histoire, et la direction vers laquelle on va partir ce soir, puis on va essayer un petit peu de s'approcher, parce qu'il est question de mettre... je vais m'occuper, dans le cadre de la revue Insistance, d'un numéro sur le cinéma. Le cinématographe, c'est pas les films. Je pense qu'on va... Je crois que c'est comme ça que ça va, qu'on va avancer ce soir. On va s'approcher en direction de ce que peut dire Godard en 1998 quand il crée... Alors c'est ça, là. Quand il crée ce qu'il appelle, lui, histoire du cinéma, avec un grand H, avec un S entre parenthèses, et ce qu'il propose, lui, comme histoire du cinéma, qui n'est évidemment pas l'histoire qui existe. Pour lui, l'histoire, c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qui va être créé. Donc, vous voyez que c'est une conception de l'histoire et de la modernité, évidemment, qui nous intéresse, puisque, dans le transfert, ce qui est important, c'est bien sûr de retrouver toutes sortes de choses qui ont eu lieu, mais c'est cette histoire avec un grand H qui est en train, à un moment précis, d'apparaître. Et on peut dire que dans la création artistique, c'est une question qui insiste. Alors, notre façon à nous, élèves de Lacan lisant Freud, c'est d'introduire par rapport à ce moment le fait qu'il apparaît lorsque du réel, en sachant pas ce que c'est que le réel, bien sûr, le fugitif, à sa façon Baudelaire en parle, du réel soudainement se déchaîne de ce à quoi il était enchaîné jusque-là, le symbolique et l'imaginaire, et que se déchaînant, il va pouvoir être pris en charge, notamment par du son, par le symbolique. Et ce qui nous intéresse, évidemment, enfin, me semble-t-il, c'est ce que j'essaie, moi, de soutenir dans le transfert, c'est qu'une psychanalyse, ça se fait aussi, et peut-être surtout, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été suffisamment pris en compte, à partir d'une voix humaine qui parle et qui parlant chante. Évidemment, puisque dans la voix qui parle, il y a une mélodie, il y a une harmonie, il y a toute l'histoire de la musique à condition que cette histoire de la musique ne se résume pas à une histoire qu'on apprendrait dans son déroulement chronologique, mais qu'on parle en quelque sorte d'une archéologie, quelque chose comme ça, arché, d'un début, de quelque chose qui serait un début, début de l'histoire. Alors, ce que nous disions, notamment la dernière fois, en parlant de, en approchant à partir de l'expressionnisme, de la façon dont cet expressionnisme a été détourné, c'est-à-dire que dans un premier temps, notamment Goebbels, Hitler, on ne sait pas trop, il disait qu'il avait une grande horreur de l'expressionnisme, enfin de toute façon Goebbels, s'est tourné vers l'expressionnisme pour le détourner de justement quelque chose qui est ce quelque chose qui peut apparaître, c'est-à-dire le réduire à l'expression visible et audible, et à des fins bien sûr particulières, au point qu'en 1937 ou 1938, lorsque est organisée l'exposition d'art dégénéré, Entartete en allemand, on peut penser qu'effectivement ce qu'ils exposent en fait c'est leur conception, on pourrait dire dégénérée de l'art. Donc ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment il est possible que en ce qui concerne la voix, mais ça ne dit pas ce qu'est la voix. Puisque la voix, on essaie de la considérer en fonction de ce que l'on appelle, avec Lacan, l'objet petit a. Et l'objet petit a, ce n'est pas quelque chose qui se réduit au sonore. Ça, ce n'est pas l'objet petit a. Ce sera peut-être l'objet du fantasme, mais ce n'est pas l'objet petit a. Hein, il en parle à différents moments, mais c'est, je le cite, la voix est strictement... Je reprends ce qu'il dit dans le séminaire, je l'ai déjà dit, du 9 avril 1974. La voix est strictement, et on sait l'importance des adverbes, tout est dans les adverbes finalement, strictement, c'est pas est, est strictement, la scansion, avec laquelle, ou par laquelle, ce que je vous dis, je vous le raconte. Voilà. Alors c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça pose la question de quelque chose qui ne peut pas être enregistré en tant que tel, et pourtant, ça ne peut pas non plus se apparaître en dehors d'un fond sonore, mais ça n'est pas le fond sonore, ça n'est pas la dimension de, des fréquences et de tout ce qu'on voudra, et pourtant, c'est ça toute la question. Et du fait que l'hypothèse qu'on soulevait et que j'ai développée lors d'une table ronde, à partir de laquelle là, certains d'entre vous sont venus ce soir, c'est le fait que l'idée, ce serait que, par exemple, la voix d'Hitler qu'il a travaillée, vraisemblablement à partir de la voix de quelqu'un qui avait une voix qui répandait le feu, qui s'appelle Karl Kraus, était porteuse d'une telle, on va dire, haine primaire, c'est pas une haine de quelque chose, d'une destructivité tellement forte à l'endroit de ça, de cet intime qui ne peut pas justement apparaître en tant que tel comme visible et audible. Et pourtant, qui a besoin de ce visible et de cet audible pour apparaître, et vous voyez que d'emblée on peut penser par exemple à la façon dont Lacan présente l'image spéculaire qui est soutenue par le manque dans l'image spéculaire. Donc on a toujours cette dimension là à prendre en compte, et sans doute, ça c'est des hypothèses, ce qui se transmet dans le transfert de l'analyste à l'analysant, mais aussi de l'analysant à l'analyste, puisque on ne peut pas, même s'il y a des places qui sont définies, on sait bien que c'est comme ça que ça marche. C'est sans doute, enfin moi c'est une hypothèse, c'est sans doute quelque chose de cet ordre. Alors en lisant et en écoutant, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, l'histoire du cinéma de Godard, c'est 8 films qui constituent une histoire qui sont en fait en 4 parties. Quand on lui demande pourquoi il n'y a pas de partie, il dit je ne sais pas du tout, mais c'est peut-être parce qu'une maison à 4 murs, pour montrer dans quel univers on se trouve, on n'est pas du tout dans l'univers de la signification. Eh bien, Godard nous intéresse, pourquoi ? Parce que il suppose, et il va passer, on pourrait dire, il essaie de transmettre ça, le fait que le cinématographe, graphe, c'est pas le cinéma, l'écriture de quelque chose, et là on peut penser au livre évidemment de Claude Maillard, le cinématographe, ce qui s'écrit, vous voyez qui écrit, c'est aussi le titre du livre de Lacan, les écrits, en sachant bien qu'il dit bien que les écrits, c'est pas ce qui est écrit, c'est autre chose, hein, et c'est propre à chacun, comme l'objet A, c'est propre à chaque récepteur. Ce qui est en jeu, ce que Godard essaie de mettre en jeu, alors bien sûr je suis un peu éveillé à ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va constituer un groupe autour de la préparation de ce numéro qui aura lieu d'ici 1 ou 2 ans. L'idée, je trouve que l'idée de Godard est fantastique dans la mesure où il dit, vous savez que Godard, quelque part, cette culture protestante, religieuse, chrétienne, protestante, il dit une image ne vaut que si elle est projetée avec une autre image. Et cette projection des deux images va créer une troisième image. Il dit ça c'est la Trinité. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même pas très loin de Lacan de toute façon. Et c'est intéressant parce que c'est évidemment cette troisième image, c'est ça l'histoire. C'est pas une image au sens de l'image habituelle. Et il va donc faire cette histoire du cinéma en proposant dans le même temps des images, on va dire, ensemble, de films différents, en faisant entendre en plus sa voix, en faisant entendre des sons de films, et c'est offert comme ça, et ça vient effectivement toucher le fait que quelque chose, hein, il pose un moment dans cette œuvre d'art qu'il appelle Histoire du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma ? Réponse : rien. Que veut-il tout ? Que peut-il quelque chose ? Alors, on est loin. Je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que ça nous arrache au débat dans lequel on est pris par la question de l'image. C'est-à-dire qu'on est. Il propose vraiment, je crois qu'il a une intuition tout à fait géniale. Alors c'est difficile, hein, Godard, bien sûr, mais c'est pas de comprendre. Il a une intuition tout à fait géniale de ce qui est au-delà du visible et de l'audible. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un discours sur le cinéma, il explique que ça ne l'intéresse pas. Et on sait, nous, l'importance d'un discours qui n'est pas un discours sur la psychanalyse, parce que ça, c'est connu, etc. C'est qu'est-ce que peut être le moment où il y a du psychanalyste. Ça, c'est ce que nous propose Lacan. Où il y a du cinématographe. Ça, c'est ce que dirait Godard. Où il y a une création artistique. Et, puisqu'on est lancé là-dedans, il propose que l'introduction du cinéma, l'invention du cinéma, apparaît en 1818. Alors ça, c'est aussi une histoire qui est quand même très... 1812, pardon, très particulière, qui est liée au fait que Napoléon, le 23 juin 1812, envahit la Russie de façon manifeste, importante, 450 000 hommes, il en reviendra 40 000. Et dans ce désastre, un général de Napoléon est laissé sur le champ de bataille mort. Il s'appelle, je crois, Poncelet, il a son nom quelque part. Oui, c'est, je crois que c'est Jean-Victor-Henri Poncelet. Il est originaire de Metz. Et en fait, alors c'est ça que je trouve assez extraordinaire de considérer l'histoire comme ça, parce que je pense, Jean-Victor Poncelet, officier de génie de l'armée de Napoléon, il est laissé mort sur le champ de bataille, il est récupéré par les Russes, qui viennent après, donc Napoléon sortir. Je crois que ça montre bien un peu ce que c'est que l'importance des moments particuliers. Il est mis en prison, et là, dans la prison à Moscou, là on est dans l'histoire telle qu'elle peut se créer, parce qu'on n'a pas, évidemment pas de preuve, le problème il n'est pas là. Ce que suppose Godard, et moi je vais bien dans ce sens-là aussi, c'est que alors qu'il tourne en rond dans la prison, lui revient ses cours, c'est un géomètre, c'est un physicien, ses cours de Monge et de Carnot sur la projection des figures. Et on peut penser que quand on est en prison, c'est tout à fait important, justement, d'être mu par quelque chose, sinon on se demande bien ce qu'on peut devenir. Hein. Et en 1822, il va être après libéré, etc. En 1822, quand il revient, il fait un traité qui s'appelle le traité des propriétés projectives des figures. Et c'est là, dans cette projection, je ne peux pas expliquer ça mathématiquement parce que ça me dépasse évidemment les choses, mais ce que dit Godard, c'est que c'est là qu'apparaît l'invention du cinéma. Ce n'est pas les frères Lumière, qu'il appelle d'ailleurs, on pourrait aussi bien les appeler les frères Abat-Jour, ce serait beaucoup mieux que les frères Lumière, parce que finalement ils sont restés dans le noir et blanc, donc ce serait beaucoup mieux que les frères Lumière. C'est un joli mot ça, frère Abat-Jour. Donc le cinéma apparaîtrait dans ce mouvement même qu'est la projection particulière, dans une prison en Russie, à Moscou, lors où un général français est emprisonné, laissé mort sur le champ de bataille, et ce serait inventé, on pourrait dire là, c'est un peu comme la découverte, une découverte comme ça qui passe un peu inaperçue, et il place véritablement la naissance, c'est pas pareil, la naissance et l'invention, la naissance du cinéma, il la place au moment où le premier impressionniste, Manet, peint des regards de femmes. Et alors, ça nous amène, Manet c'est quelqu'un que Baudelaire a beaucoup soutenu et qui a aussi soutenu Baudelaire, on est vers les années 1860, donc on est dans la question de la modernité. Et c'est intéressant l'hypothèse de Godard, et je crois que c'est aussi ça pourrait être l'hypothèse de psychanalyse justement. C'est même sans doute quelque chose du même ordre. Il dit que le cinéma est né finalement au XIXe siècle, et que c'est lui qui fait le XXe siècle. C'est-à-dire que serait le XXe siècle sans le cinéma, cinématographe. Et évidemment, le cinéma, c'est pas tout à fait l'image telle qu'on en parle habituellement. C'est pas les films. Donc, la psychanalyse, effectivement, elle fait partie de ce mouvement qui apparaît à la fin du 19e, début 20e, et on peut penser qu'elle... Alors, on va dire qu'elle vient des Lumières, bien sûr, mais il y a quelque chose quand même qui fait qu'à un certain moment, au niveau des artistes, au niveau des... de Freud, quelque chose se met en mouvement, c'est le cas de le dire, qui va faire que justement quelque chose peut advenir. Qu'est-ce que c'est ça, peut ou pas advenir. Et je crois que malgré, et peut-être surtout après un siècle de l'existence, ça reste moderne, hein, au sens où on essaie d'en parler. Pour autant que justement, on en est toujours, et là je cite évidemment Manoni, mais Octave, mais d'autres, toute la question est dans le commencement et dans le recommencement. Mais c'est pas un vain mot, la question du commencement. Hein, la question de... c'est pas l'invention, c'est le moment où quelque chose apparaît. Et ce qui fait que quelque chose apparaisse, alors nous le savons, nous, c'est qu'il faut bien, pour que quelque chose apparaisse, la dimension même de la pensée qui se déroule, le film qui se déroule en quelque sorte, soit arrêté. Et qu'à ce moment-là, on revient à cette question de la voix, et qu'à ce moment-là, quelque chose, effectivement, soit entendu, mais qui dépasse ce qui est entendu avec les oreilles. C'est autre chose. Et on ne peut pas, je pensais en lisant ce que je vous dis là sur voilà, je pensais, par exemple, vous savez, à ce rêve dont parle Freud, « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» La question, c'est pas du tout les cendres. C'est pas du tout le lit qui brûle, c'est la flamme. C'est quand même étonnant. Lacan dit, ce qui est important, l'interprétation de ce rêve, c'est flamme comme signifiant. Mais c'est quand même étonnant, on trouve exactement la même chose chez Godard. Il dit, ce qui compte, c'est pas les cendres, c'est pas le bois, c'est la flamme. Il y a quand même des choses, je trouve qu'il y a quand même des choses assez enfin évidemment c'est une métaphore, mais pour montrer que ce qui est important, c'est le moment où, alors que tout nous porte, on voit bien, parce qu'on est pris là-dedans, à considérer les cendres, hein, à même à rester en permanence dans les commentaires sur l'apparition des cendres. Quoi. Et ça se comprend, parce que ça, c'est terrible ce qui a pu conduire à des cendres. Mais la question, effectivement, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment apparaît la flamme ? Et c'est dans ce rêve-là. Vous savez que c'est un rêve qui a été rapporté par quelqu'un qui l'a rapporté à Freud, hein, c'est quelque chose, c'est une cascade pour arriver à ce rêve-là. Père, ne vois-tu pas que je brûle, hein, du père, qui. Le père. Et ça dépasse évidemment l'histoire du voir, ça conduit au fait que, tel qu'en parle Lacan, par le biais de ce signifiant flamme, à condition de s'arracher la culpabilité, parce qu'évidemment, il y a les cendres et tout ça, il y a tout ce qu'on voudra, l'enfant qui s'approche de son père, qui donne la main, tout ça, c'est très émouvant, il y a la culpabilité, il y a toute l'émotion qu'il y a là. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix, non pas celle qui... Bien sûr qu'il faut celle-là, celle qui dit ça, mais cette voix, on pourrait dire, qui, soudainement... fait entendre, au-delà de cet énoncé, la question de quelque chose qui est cette flamme. C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est que cette voix, hein? Et c'est la même chose dans le premier rêve de la science des rêves, hein, triméthylamine, que Freud, c'est Freud le rêveur, que Freud voit écrit. Et quand Lacan commente ça dans le livre 2, je crois, il insiste bien là-dessus, enfin, il insiste, pour moi c'est évident, évidemment, c'est un peu glissé comme ça. C'est pas tant que Freud, le rêveur, voit triméthylamine, c'est qu'il entend une voix. Là, on voit bien, le peuple voyait les voix, mais je veux dire, c'est une métaphore, c'est qu'il entend, c'est pas ce qu'il entend qu'il voit. Donc c'est ça la question de l'objet A, quand ça apparaît. Et c'est sans doute ça que la science, dans la technique, alors là on revient, on n'est plus dans le cinématographe, on est dans la technique. Dans la technique, c'est sans doute ça que la technique met à mal, parce que justement la technique, elle ne peut pas prendre en compte cette dimension-là de quelque chose qui justement a une certaine consistance, mais ça n'est pas la consistance qu'on peut classer. Hein? Ce pas encore classé est important, tant que la psychanalyse, mais la création artistique, n'est pas encore classé, on est dans ce moment, dans cette histoire qui est en train de se faire, et après, évidemment, après c'est autre chose. Ça va pas de soi parce que, pourquoi? Parce que vous savez que finalement, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est qu'il n'y a pas tellement de penseurs, hein, actuellement. Mais c'est vrai que ce mouvement même de la pensée, c'est quelque chose qui est la pensée la pensée qui ne peut pas en quelque sorte se saisir comme telle, et dont on attrapera peut-être un petit bout dans l'après-coup de quelque chose. Ce n'est pas le penseur qui édicte quelque chose. Et on en est là, autour de ce débat, de ce débat qui peut tout à fait retomber dans l'ornière et qui habituellement retombe dans l'ornière dès qu'on en reste à la signification, à la représentation et aux mots. Si on prend en compte le fait qu'un jour, un être parlant aura rencontré quelque chose, une expérience, on va dire, aura fait une certaine expérience, c'est pas l'expérience au sens courant du terme, puisque c'est complètement inattendu, une expérience qui l'aura conduit à entendre quelque chose. Et là, on peut prendre aussi tout ce que dit Benjamin autour de ça, autour de l'entendement, c'est-à-dire le fait que il y a un temps arché, le début, le commencement, insaisissable, qui est ce temps que nous, les psychanalystes, nous appelons la pulsion, notamment la pulsion invocante, qui est un temps où à la fois quelque chose, hein, c'est ça le possible dont parle Godard, quelque chose peut s'entendre, se faire entendre, même pas s'entendre, se faire entendre, mais en même temps se faire voir. C'est toute la question de cette rencontre, de ce nouage de la pulsion scopique et de la pulsion invocante, qui n'est pas quelque chose qui met en jeu, on va dire, la vision ou l'acoustique, c'est autre chose. Si on prend en compte ce moment, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, ce moment offre une grande proximité entre l'artiste et le psychanalyste. Et le psychanalyste, dans cette dynamique qui est cette dialectique, on pourrait dire, du transfert, c'est-à-dire dans cette articulation de ce que Lacan appelle le grand autre barré, le signifiant du grand abarré, et puis le sujet à venir. Et que c'est pour autant que quelque chose dans cette articulation peut soudainement apparaître, et ce quelque chose, c'est quelque chose d'insaisissable, mais c'est quelque chose qui s'entend. Quand ce quelque chose s'entend, et je trouve de plus en plus, personnellement, que tout ce que Lacan, entre autres, aborde sous le biais de la jouissance, par exemple dans le séminaire encore, il me semble que c'est de ça dont il parle, c'est la jouissance, bien sûr, on ne sait pas bien ce que c'est, mais s'il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec l'ouïr, hein, c'est quelque chose, c'est jouissance de l'autre, c'est jouissance autre, c'est quelque chose qui présente l'intérêt, justement, comme le formule Lacan, d'exposer à tous les malentendus, puisqu'on peut rester dans une jouissance qui est finalement l'équivalent du plaisir, et puis on en reste là, c'est-à-dire que finalement on n'est pas du tout dans ce qu'il est en train de dire, on n'est pas dans ce champ-là, c'est pas du tout le plaisir ou le déplaisir, c'est autre chose, c'est quelque chose qui met en jeu le corps. La question du corps, quand est-ce que du corps apparaît ? Hein, je vous rappelle, cette façon dont Lacan en parle, quand je parle, plus exactement, je parle avec mon corps sans le savoir. Voilà. Donc quand je parle, c'est la troisième personne, c'est pas la première personne. Je parle avec mon corps sans le savoir et j'en dis plus que je n'en sais. Cette dimension, cette apparition du corps est quelque chose qui J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un colloque à Cannes, ce qui m'est revenu dans l'assistance, c'est que, comme je parlais de l'ascension et de l'objet A, etc., on me dit, ben c'est quelqu'un dans la salle, dit, ben c'est ça le corps. Le corps, je crois qu'effectivement, c'est le moment, on parle de l'objet qui se détache, etc., le corps, c'est le moment où, alors, par le biais de l'analyste ou de l'analysant, je crois que c'est quelque chose de l'ordre du temps s'arrête, du temps chronologique, et saute, la scansion, quelque chose, un saut, une scansion conduit vers cette exultation qu'est le corps. À ce moment-là, il y a quelque chose qui exulte, quelque chose qui apparaît par ce moment d'interruption, qu'est la scansion. Et c'est rarissime, évidemment, mais quand ça peut avoir lieu, une des façons, sans doute, peut-être de l'entériner et de le confirmer, ça pourrait être, par exemple, quand ça a lieu, si immédiatement une certaine stupeur, une certaine sidération a lieu, l'échange entre l'analysant et l'analyste, quand ils se rencontrent, quand les corps sont face à face, ça pourrait être par exemple que l'un et l'autre va se mettre à rire. Il y a quelque chose qui fonctionne à ce moment-là, à la fin de la séance. Et ça part. Alors, vous savez que c'est assez rarissime, ça, mais ce n'est pas un rire de quelque chose qu'on a compris, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du corps qui est apparu. Donc là, on est effectivement dans l'écriture de quelque chose, dans l'écrit, dans le fait que ce que l'on avait jusque-là pensé a conduit ailleurs. Et c'est ce que j'évoquais la dernière fois à propos de Schoenberg, quand je supposais, en mettant Schoenberg en parlant de Schoenberg comme celui qui avait entendu un appel à un moment, un appel justement du son, un appel de l'autre, auquel il avait pu dire oui. Quand il va dire que finalement, la question du son, c'est pas du tout la consonance, hein, c'est-à-dire qu'il y a une autre dimension, que le son, la dissonance est la matérialisation même, on pourrait dire, oui, la matérialisation même de cette complexité de l'expression. Parce qu'évidemment, Schoenberg est dans le courant expressionniste. Mais vraiment. Là, il est vraiment dans la création, ce n'est pas l'expression au sens d'exprimer quelque chose. D'exprimer, et surtout de vouloir convaincre. Et surtout de ne laisser aucune place à l'autre, comme pouvaient le faire les nazis, et notamment Hitler, sa voix, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'autres. Il n'y avait plus du tout d'autres qui pouvaient effectivement être pris en compte. Il s'agissait de faire disparaître cette... C'est intime. Alors, ce qui est assez énigmatique, mais pas tant que ça, c'est que justement, il puisse y avoir une sorte de communion terrible entre les participants à telle ou telle manifestation, à ce moment-là. Enfin, il avait bien repéré, effectivement, que la voix, en tant que telle, avait un pouvoir, et puis, évidemment, on revient au cinéma, le mouvement même et la photographie, le mouvement même du corps pouvait être étudié puisqu'il se faisait prendre en photo par un certain Hoffman, et se faisant prendre en photo, il pouvait comme ça arriver à développer les gestes saccadés, tout à fait adaptés, pour qu'en aucun cas la conscience, on peut même aller jusque là, la conscience de celui qu'il voyait, qu'il regardait, ne puisse qu'être en quelque sorte détruite. C'est-à-dire qu'il était complètement, tout était organisé pour qu'il n'y ait rien qui puisse échapper à ce théâtre particulier. Et ce théâtre particulier, les gestes qu'il apprenait, on ne peut pas non plus ne pas rapprocher ces gestes du cinéma muet qui s'était développé et où tout était dans ce corps sans voix apparente, sans voix, mais s'il n'y a pas de voix telle qu'on en parle, ce n'est pas sûr, sans voix, qui était là et qui venait impressionner les spectateurs. Donc, vous voyez que Hitler se met tout à fait dans l'histoire, au sens chronologique, il prend en quelque sorte les éléments qui peuvent convenir. Alors du coup, il va effectivement détourner le peuple, notamment le peuple allemand, sans doute d'un autre destin, mais il y a quelque chose qui, après coup, nous fait, on pourrait dire, enseignement, c'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, quelque chose du détournement de l'œuvre d'art est en jeu. C'est-à-dire que si on part du fait que cette modernité, ce mode particulier est important, autrement dit, si ce qui est important, c'est non pas tellement, et là on en plein, je pense, dans toutes les questions actuelles, toutes sortes de choses, si ce qui est important, c'est pas tellement d'en rester à la répétition de l'histoire et de l'historique, mais que ce qui constitue l'œuvre d'art, et non peut-être pas l'œuvre, justement, l'œuvre d'art, c'est que chacun, à sa façon, peut, à partir de ce qu'il a précédé, comme œuvre d'art, à son tour, transmettre à ses contemporains ce qu'est l'œuvre d'art, alors on voit la version, on pourrait dire, on est la perversion qui se met en place au sein même de l'expressionnisme par le biais de ce qui va être récupéré par le nazisme. Je dis seulement ça parce que c'est comme ça que Lévi-Strauss termine son livre « Regarder, écouter, lire ». La seule façon pour l'œuvre d'art de se perpétuer est de donner naissance à d'autres œuvres d'art qui, aux contemporains, paraîtront plus vivantes que celles qui les ont immédiatement précédées. L'œuvre s'établit en deçà et au-delà des intentions de son auteur. Voilà. Celui-ci en perd le contrôle sitôt qu'il l'a créée, et elle se développera selon sa nature propre. Voilà un peu la question de vu à l'échelle des millénaires, les passions humaines se confondent, le temps n'ajoute ni ne retire rien aux amours et aux haines éprouvés par les hommes, à leurs engagements, à leurs luttes, à leurs espoirs. Jadis et aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes. Supprimer au hasard 10 ou 20 siècles d'histoire n'affecterait pas de façon sensible notre connaissance de la nature humaine. La seule perte irremplaçable serait celle des œuvres d'art que ces siècles auraient dû naître. Ce sont les œuvres d'art qui disent parmi les hommes que quelque chose s'est réellement passé. Effectivement, on est proche de l'importance du transfert, de la dynamique du transfert, de cette question qui est en jeu dans la psychanalyse et que d'une certaine façon, à sa façon, Lacan appelait, vous savez, c'est la question du désir X, cette énigme indispensable. Et qui finalement, on voit bien, a toujours été présente d'une certaine manière dans la façon dont l'humain peut essayer de se mettre en direction de quelque chose Alors, on appelle ça, nous, la signifiance, hein, dans ce livre. Ce que Lévi-Strauss va proposer, c'est qu'il y a quelque chose d'invariant, mais d'insaisissable. Il y a quelque chose qui échappe à toute mesure dans l'être parlant. Et évidemment, c'est quelque chose que les artistes savent, et c'est quelque chose que la science va effectivement tout à fait élaborer vers les années 1975, va découvrir ça. Mais cette invariance, ce quelque chose qui dépasse toute mesure, toute limite, ce que l'on peut dire, c'est que ça vient bien, c'est quelque chose qui résulte, ou qui est l'effet, ou qui, je ne sais même pas si c'est l'effet, mais qui est lié au langage. Et dès qu'on ne prend plus en compte cette dimension, effectivement, du langage, du fait que ce n'est pas nous qui commandons le langage, c'est le langage qui vient nous habiter, et puis c'est lui qui produit des effets, eh bien, on ne peut plus, en quelque sorte, penser, ou du moins se mettre en direction de ce qui est au-delà de la pensée, ce que Freud appelle au-delà du principe de plaisir, mais de ce qui est au-delà de la pensée et de cet objet particulier, que Lacan va, vous savez, il va dire c'est mon invention, ça, c'est ce que j'ai inventé, l'objet petit a, et notamment la voix, quelque chose qui ne peut pas se prendre, qui ne peut pas se donner en tant que tel, sauf à peut-être à être lâché soudainement à un certain moment par un être parlant. Habituellement, on parle d'un chanteur, mais je pense que dans la voix qui parle, il y a ces éléments-là qui sont tout à fait importants. Alors voilà un peu cette question de ce qui peut s'écrire, hein, de ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire et ce qui à un moment cesse de s'écrire. Vous savez, le passage, ce pas particulier dont parle Lacan, c'est pas ce qui cesse de s'écrire, qui évidemment est très proche de l'être parlant et de l'être humain, est très proche de l'artiste, et qui fait que dans cette perspective-là, on peut dire que l'enseignement de Lacan, par le biais de ce qu'il a développé du côté de l'image, peut-être justement, n'a pas véritablement... Parce que ce que je vais dire est un peu osé, mais n'a pas véritablement été pris en compte par les psychanalystes. Ce que je trouve, c'est que quelqu'un comme Godard en parle beaucoup mieux que les psychanalystes. C'est-à-dire que nous, c'est facile d'en faire une théorisation, mais ce n'est pas ça le fond du problème. C'est qu'est-ce que c'est que l'image dans le transfert ? Pas dans le transfert au sens de l'explication, on peut toujours dire toutes sortes de choses, mais au sens où quelque chose, cette troisième image, ce qu'il appelle la troisième image, soudainement apparaît. Évidemment, ce n'est pas une image. Ce n'est pas une image au sens visuel du terme. Justement, ce n'est pas une image. Chez ce protestant d'origine, ce n'est pas une image visuelle. C'est-à-dire qu'il est, il est dans un renversement qui nous conduit au judaïsme beaucoup plus que du côté du christianisme. Ce faisant, cette dimension de l'image, bien sûr, interroge la technique et interroge, par exemple, la question de la vidéo. C'est-à-dire que lui, ce que veut dire Godard, c'est tout à fait important la vidéo parce que ça lui permet de réaliser ces mécanismes de projection, c'est-à-dire de mettre ensemble plusieurs images. C'est pas fait pour revoir, ça c'est pas du tout l'objectif, il dit qu'il a... Pendant 30 ans, il a essayé de faire ça. Et je trouve que c'est assez proche de la démarche de ce qui se passe dans la cure. On pourrait dire qu'on essaie comme ça de voir, de revenir, de reparler, d'entendre, etc. Et puis à un moment, il y a quelque chose. Il y a des... Alors, il faut appeler ça des images, mais on appelle ça un peu... Je ne sais pas bien comment on appelle ça. On a notre jargon, hein, mais... Il y a quelque chose qui à un moment se rencontre. deux choses qui se rencontrent, et ce qu'il apparaît, c'est effectivement le nuage, à 3, au moins, voire à 4. Et cet apport-là me semble éclairer le transfert, alors que habituellement, ce que vont faire les psychanalystes, c'est appliquer leurs connaissances pour expliquer un film. Mais ils sont complètement dans l'aliénation de... Justement, ils sont complètement dans la création de l'histoire explicative. Je dirais qu'on apprend ça en contrôle, quoi. On apprend en contrôle que c'est pas ça, justement, qui est important. On apprend en contrôle que c'est ce qui nous a dépassés. Là, il y aurait peut-être pu y avoir de l'histoire, mais bon. Alors voilà, bon, je vais un peu m'arrêter là-dessus, puis on va pouvoir un peu causer. Ce que je voulais vous transmettre ce soir, c'est comme ça une sorte de la façon dont j'ai été touché par JLG, là, qui est quelqu'un qui souffre, qui est quelqu'un qui est dépressif, vous savez, il ne va pas bien, il est bon, etc. Il a une vie, il a fait de la prison aussi, c'est aussi pour ça qu'il a fait de la prison, c'est pour ça qu'il peut peut-être dire ça de Poncelet. Je crois qu'effectivement, quelqu'un qui est en prison, tous les discours qu'on raconte, je ne dis pas qu'ils sont débiles, c'est plus que débile. C'est pas en prison qu'on peut réadapter quelqu'un. Enfin, il y a quand même des choses qui sont pas possibles. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, moi je n'ai pas de solution, mais ce que je veux dire, c'est que comment quelqu'un qui est complètement dépouillé, qui est réduit à la situation du déchet, on tient. Ce que j'entendais hier, j'ai mis les lunettes hier soir, un moment, il parlait du procès de trop, là, et il disait que la seule chose qu'on n'arrêtait pas de les bombarder pendant les 3 années où on était là, c'était des tranquillisants. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans les prisons, c'est qu'on leur donne des médicaments pour que justement ils soient. Enfin bref, je trouve ça tellement terrible que. Mais ce bonhomme Godard, je vais essayer un jour d'aller le voir, mais je ne sais pas si ce sera possible, ce géant de rôle, puisque c'est là-bas où il habite, en Suisse. Il dit tous les matins, enfin, un petit peu, il va. C'est où qu'il habite aussi? Il a une cabane au bord du lac Liman, là-bas, et c'est là-bas qu'il va faire ses montages et ses trucs. C'est que son grand truc, c'est le secret pour lui, c'est le montage. Tout est dans le montage, c'est ce que j'ai essayé de dire. Et il rattache le montage à cette invention du général français prisonnier, en disant, ça vous allez le trouver nulle part, hein. Mais pour moi c'est ça, et moi je le crois vraiment que c'est ça, hein. Et je trouve que c'est ça là. Bon, là, effectivement, c'est là que démarre la question du cinéma. C'est pas après, c'est pas avec les frères Lumière. C'est fou, mais je trouve ça extraordinaire. Enfin bon, voilà. Et il pose la question, pourquoi est-ce que le cinéma a démarré par le noir et blanc? Il parle d'expérience de deuil. C'est une idée, parce qu'il dit qu'il y avait tout pour que ça démarre avec la couleur. Pourquoi ça démarre avec le noir et blanc? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment. Pourquoi est-ce qu'il a fallu démarrer par le noir et blanc? Pour lui, le noir et blanc, c'est effectivement le deuil. On pourra dire autre chose, hein. c'est pas ça qu'on veut dire, mais...
Ces 4 tomes constituent l'anthologie du cinéma.
Oui.
C'est quelque chose de prodigieux. Et que ce soit un cinéaste qui fasse une anthologie du cinéma sous cette forme de l'écriture, c'est magnifique.
Oui. C'est une œuvre d'art. Ça va rester, ça.